C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Céline Couté à la présentation.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Ouverture ce week-end de la session ordinaire de septembre dans les deux chambres du Parlement. Une session essentiellement budgétaire, mais qui abordera aussi les questions d'actualité, telles que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et la restructuration de la CENI. Quelle analyse faire des matières prévues pour cette session? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 17 septembre 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat José Makila, député national de l'opposition et président du Parti politique Alliance des travaillistes pour le développement ATD. Honorable Makila, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Maître Willy Makiachi, député national de la majorité au pouvoir et secrétaire national du parti lumumbiste unifié Palou. Honorable Makiachi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et professeur Philemon Mwamba, il est secrétaire académique à la faculté de droit et sciences politiques à l'Université catholique au Congo et chercheur au centre d'études politiques de l'UNIKIN. Professeur Philemon Mwamba, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Joël Boussibo à partir de Boutembo, Nord Kivu. Je salue cette rentrée parlementaire. Toutefois, l'on pourrait, à mon humble avis, se focaliser avant tout sur la question épineuse et brûlante de la sécurité du pays, avant de se mêler dans les discussions sur les budgets qui n'a toujours pas profité au petit peuple, car l'expérience de 2012 nous est d'ici. Aucune réalisation jusque-là visible sur le social du Congolais. Calvin Bita de Goma au Nord Kivu. Il est clair que cette session parlementaire de septembre a toujours été budgétaire, mais face à la situation de l'est du pays, cette question de la rébellion du M23 devait être la priorité des priorités plutôt que de ressortir dans les autres points à débattre. Ça donne l'impression de ne pas trop se soucier de tout ce qui se passe au Nord Kivu, aussi bien pour les élus du peuple. Merci de nous suivre en Bandaka dans la province de l'Équateur sur la 103.0, et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La rentrée parlementaire a eu lieu ce samedi dans les deux chambres du Parlement. En raison des travaux de réhabilitation du Palais du Peuple, les députés nationaux se sont retrouvés au Grand Hôtel Kinshasa. Et dans sa déclaration d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que cette session de septembre est essentiellement budgétaire. Obem Minaku a ajouté que les députés se pencheront aussi sur d'autres questions brûlantes d'actualité, questions nécessitant des réponses urgentes. Mimi Ngumba était sur place pour le compte de Radio Capi.
L'examen de finances de l'État 2012 sera la priorité des priorités, a dit le président de l'Assemblée nationale. Obem Minaku évoque également comme urgence la loi organique portant organisation de la Commission électorale nationale indépendante et la proposition de loi instituant la Commission nationale de droits de l'homme. La question de la cessation des hostilités à l'est du pays est mentionnée comme exigence à court terme.
Il apparaît de toute évidence qu'il est impossible de construire un développement durable dans un contexte de belligérance. Nous restons convaincus qu'avec le concours des peuples pris de paix, le vaillant peuple congolais, uni comme un seul homme, vaincra la guerre lui imposée pour reconquérir sa souveraineté.
Hormis ces matières pressantes, les députés devront statuer également sur les réquisitoires du procureur général pour l'obtention de la levée de l'immunité des députés Diomine Dongala et Roger Lumbala. Les élus du peuple vont se prononcer aussi sur la motion de défiance contre les vice-premiers ministres, ministres de la Défense par rapport à la situation à l'Est. Tenant compte de l'importance de toutes les matières de cette session, le président de l'Assemblée nationale invite les députés à mener à bien leur mission parlementaire.
Le calendrier des matières à traiter a fait réagir les députés nationaux. Ceux de l'opposition s'inquiètent de la situation de l'Est du pays et appellent le bureau de l'Assemblée nationale à faire preuve d'impartialité dans la distribution de la parole à la session de septembre. Et du côté de la majorité, on est confiant quant à l'aboutissement de la session. Reportage Mimi Ngumba Mulongo.
Commentant ce calendrier, les députés, toutes tendances confondues, reconnaissent que l'agenda est chargé. Cependant, dans l'opposition, quelques craintes sont émises. Serge Mayamba, de l'UDPS.
C'est des points qui tiennent également à la survie de la nation et nous espérons que le bureau de l'Assemblée nationale fera preuve d'impartialité dans la distribution de la parole.
De son côté, Jean-Bertrand Iwanga de l'UNC évoque des inquiétudes par rapport à la situation à l'est du pays.
Il a reconnu que le Congo est agressé. Quand on reconnaît l'agression, il faut attaquer. Et le problème ici, les Rwandais nous agressent, mais il y a beaucoup de complices au Congo.
À la majorité présidentielle, entre-temps, certains députés se disent confiants quant au bon déroulement des travaux de la session. Jean-Pierre Darouézi.
L'essentiel est qu'on s'attelle sur les priorités. Et voilà que le président, sans ignorer les autres travaux, a insisté sur les priorités.
Les députés Patrick Bombello de la MP a lui aussi abordé dans le même sens.
Nous allons nous y forcer pour que nous puissions vraiment donner le meilleur de nous-mêmes.
Sachez en outre que les travaux de l'Assemblée nationale seront délocalisés jusqu'à la mi-octobre en attendant la fin des travaux de réhabilitation du Palais du Peuple.
Et au Sénat, le président du bureau a, en outre, quant à lui, dans son discours d'ouverture, félicité le gouvernement pour avoir organisé le mois dernier la première assise nationale sur l'amélioration du climat des affaires. Cependant, Léo Kingo-Adondo a déploré la persistance de tracasseries administratives qui découragent les investisseurs et opérateurs économiques, mais aussi la multiplicité des services et des formalités rencontrées dans la création d'une entreprise. José Makila, vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique Alliance des travaillistes pour le développement. Quelle analyse vous faites des matières que vous aurez à traiter pendant cette session de septembre?
Merci madame pour la question qui m'est posée. D'abord, je félicite le président de l'Assemblée nationale pour les matières qu'il a mises à notre disposition. Évidemment, la session, elle est essentiellement budgétaire.
Et ça, tout le monde le sait.
Et là, il a parlé de la situation d'agression à l'est du pays. Il a fait allusion aussi au contrôle parlementaire et les différents dossiers en suspens. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que la situation d'agression à l'est était un tabou au niveau de l'Assemblée nationale. On ne pouvait pas en parler publiquement. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale sort de ses réserves.
Mais est-ce que ça signifie que ça sera un débat ouvert au public?
Exactement. Là, je pense au cours de ce débat, vous aurez des questions à nous poser et nous aurons des éclaircissements à donner là-dessus en tant que l'opposition et partie prenante de la composante congolaise.
Alors, il y a cet auditeur qui nous a écrit de Boutembo, il dit ceci, il salue la rentrée parlementaire, mais toutefois, il dit qu'à son humble avis, se focaliser avant tout sur la question brûlante épineuse de l'Est est importante avant de se mêler dans des discussions sur les budgets qui n'a toujours pas profité au petit peuple.
Vous savez, l'auditeur a tout à fait raison, parce que nous sommes agressés. C'est tout à fait normal. Nous sommes agressés. Et quand on est agressé, et ce qui est reconnu par le gouvernement, quand on est agressé, on utilise l'arsenal juridique qui est à la disposition de la République. Je vous assure, madame, je ne vais pas très loin. Un système qui repose sur la force plutôt que sur le droit, sur la spéculation plutôt que sur la rentabilité à long terme, sur des rapports féodaux plutôt que sur des institutions, porte les germes de sa propre ruine. Le gouvernement, le pouvoir, a l'arsenal juridique à sa disposition. Quand on est agressé, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi le gouvernement n'utilise pas l'article 85-86 de la Constitution? Pourquoi le pouvoir, via le président Kabila, n'utilise pas l'article 143-144 de la Constitution? C'est là la grande question que nous nous posons.
Et donc, vous êtes d'avis avec cet auditeur qu'il faudrait beaucoup plus se focaliser sur la question de l'Est que plutôt sur le budget.
Il est tout à fait... Il a raison. Comment peut-on parler d'un budget dans un pays pendant que nous sommes agressés?
Mais comment les institutions vont fonctionner sans budget?
Mais je ne dis pas le contraire. Les institutions ont fonctionné pendant toute une année sans budget. Nous avons vu ici, nous avons voté le budget 2012, il y a combien de temps? Il y a deux ou trois mois passés. Aujourd'hui, nous sommes agressés. Nous attendons du gouvernement qu'on déclare que notre pays est agressé. Le gouvernement ne le dit pas. Nous attendons. Mais déclarer l'agression, ne nous empêche pas de pouvoir voter notre budget. Mais nous attendons que le gouvernement puisse déclarer officiellement que la République démocratique du Congo est agressée.
Alors pour vous, parmi les points inscrits à l'ordre du jour, quelle est la priorité pour vous?
La priorité, c'est l'est de notre République. La priorité de priorité, c'est amener la sécurité à l'est de notre République. La priorité de priorité, c'est de mettre le chef de l'État à la disposition de la justice pour la haute trahison.
Mais on n'a pas senti l'apport des députés par rapport à cette question, honorable José Makila.
Les députés n'ont pas encore commencé les travaux. Hier, c'était
la mais avant d'aller en vacances, la question se posait déjà.
La question se posait, mais je vous ai bien dit qu'on en parlait toujours à huis clos. C'était une question à huis clos. Comment le peuple pouvait être au courant de nos huis clos? Et étant un homme politique, un homme d'État, le huis clos veut dire, ça se limite entre vous. Vous n'avez pas le droit de sortir tout ce qui a été dit dans le huis clos à l'extérieur. C'est ça le sens de l'homme d'État. Vous avez compris que l'opposition politique a fait preuve d'homme d'État. Donc nous n'avons pas sorti ce qui a été dit au niveau de huis clos. Mais notre frère Fayoulou, notre collègue Fayoulou, avait posé la question très clairement au ministre de la Défense, à qui on devait l'interpeller d'une manière publique. Mais le bureau avait estimé bon que la question se passe à huis clos. On ne pouvait même pas, s'il vous plaît madame, on ne pouvait même pas citer le nom de Rwanda à cet hémicycle-là. Surprise, grande a été ma surprise d'écouter, d'attendre le président de notre chambre basse parler de l'agression et citer le nom de Rwanda à l'ouverture de cette session.
Alors on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka.
Chef des travaux Jean-Bernard Mibé, commissaire Mbandaka, province de l'Équateur. Les matières prévues pour cette session reflètent les problèmes d'actualité. Nous espérons que la situation de l'Est ne sera pas débattue à huis clos. Elle concerne tous les Congolais, gouvernants comme gouvernés, opposition comme majorité. Au lieu que cette session soit baptisée de budgétaire, elle doit être baptisée de sécuritaire. S'il n'y a pas de sécurité, même les budgets votés ne seront pas exécutés par les gouvernements, ni suivis par les parlements, et la population ne verra aucune retombée.
Alors il aborde un peu dans le même sens que vous, cet auditeur.
C'est tout à fait normal, je ne le connais pas, je n'ai pas parlé avec lui, mais vous savez que c'est la priorité des priorités. Il est de Mbandaka, il n'est pas de Bukavu. Donc le Congo est un et restera un et indivisible.
Merci honorable José Makila. Maître Willy Makiashi, vous êtes député national de la majorité au pouvoir et secrétaire national du parti Lumumbiste Unifié Palou. Quelle est votre analyse à vous des matières prévues pour la session de septembre?
Merci madame. L'appréciation que je peux donner par rapport aux matières prévues à l'entrée, au cours de cette session, je peux dire que le bureau de l'Assemblée, via le président de l'Assemblée nationale, avait vu net. Donc l'auditeur qui venait d'intervenir, autant que l'honorable Makila, ont tous raison. Il n'y a pas quelqu'un qui est à côté.
Là, au moins, opposition et majorité s'accordent.
Il n'y a aucun problème d'opposition majorité, si bien que le président de l'Assemblée, par la voie duquel passe tout ce qu'il y a comme problème de l'Assemblée nationale, il est de la majorité au pouvoir, mais en tant que nationaliste congolais, pour la gestion de l'État congolais. Donc, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, encore que l'honorable Makila venait de vous dire qu'il salue de tout cœur tout ce que le président Minaku a eu à présenter. Et il ne les dit pas par complaisance, mais c'est en fonction de la prise de connaissance des problèmes de la République et pour en déterminer les priorités. Donc, quant aux priorités, il n'y a pas un problème qui se pose, ça c'est complète. Mais seulement, il faut noter que l'article 126, alinéa 1 et 3 de la Constitution, dispose la loi des finances détermine les charges et les ressources de l'État. Mais parce que la guerre est une charge, n'est-ce pas madame? La guerre passe pour une charge, une grande et lourde charge de l'État. Encore faut-il la budgétiser, faut-il qu'elle ait marge au budget, à la loi des finances, pour qu'elle soit prise en compte de manière efficiente. Comment allez-vous entrer, comme l'honorable Makila veut que le président déclare officiellement la guerre au terme de l'article 143, qu'il déclare officiellement la guerre. La guerre est déjà déclaré d'une manière ou d'une autre. Mais il veut que ce soit constitutionnel suivant la procédure. Parce que les FARDC sont en guerre, ils sont au front. Mais ils n'y vont pas bredouille, il faut la budgétiser. C'est la plus lourde charge que nous puissions avoir en ce moment, en dehors du social, qu'il est d'ordinaire, qu'il est au quotidien. À ce titre, il n'y a donc pas de contradiction quant aux priorités. Donc, la priorité guerre doit être prise en compte en priorisant la budgétisation de la guerre, sinon on ne saura pas la mener. Donc, quant à la priorité, aux matières telles qu'elles sont inscrites, elles sont, mais le président de l'Assemblée lui-même l'a dit. Lorsque vous veniez d'émettre son mot, il dit que cela est une évidence. Ça, c'est le président Minaku. Cela est une évidence que sans paix, l'on ne peut pas aller en développement, on ne peut pas parler modernité, on ne peut pas parler social. Il parle d'évidence. Donc il n'a pas compris autrement les choses. C'est alors qu'il dit que nonobstant le fait que la session en elle-même des principes est budgétaire, mais nous y inscrivons à l'ordre du jour la question sécuritaire et aussi la question de la révision de la loi portant organisation et fonctionnement des élections. Donc le président de l'Assemblée l'a compris et il l'a dit. Donc tout ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de les compléter, il n'y a pas de contradiction.
Et donc une grande partie de ce budget que vous allez voter doit être allouée à la guerre ou à la guerre, voilà, du Nord Kivu.
Mais bien entendu, parce que nous avons dit que l'article 126 alinéa 1 et 3 de la Constitution dispose que la loi des finances détermine les charges et les ressources de l'État. Et nous avons également martelé en disant que en ce moment précis, la guerre passe pour une lourde charge. Donc, passe pour une lourde charge revenant à l'État. Autant que le social, qui est aussi une autre guerre lorsque le social n'est pas pris en compte. C'est pourquoi, pour travailler, parce que gouverner, c'est prévoir. Il faut travailler en ordre. Donc, il est des principes. Et il est logique que les dépenses, les charges à supporter par l'État émargent au budget de l'État. Et ce sont les parlementaires, en tant qu'autorité budgétaire, qui vont, in fine, et considérer quelle est la hauteur que la guerre pourrait prendre afin que l'État la prenne normalement et considérablement en charge pour la juguler.
Alors, vous avez suivi la réaction de cet auditeur du Mbandaka. Son souhait, c'est que cette fois-ci, cette question de l'Est ne soit plus traitée à huis clos. Est-ce que les auditeurs, les Congolais en général, peuvent espérer suivre ces débats-là à l'Assemblée nationale?
Mais il n'y a pas de tabou, madame, lorsqu'on parle de la plénière pour qu'elle soit publique, ou les plénières pour qu'elle soit publique. Mais personne n'a jamais refusé cela.
Mais c'était à huis clos avant d'aller en vacances parlementaires.
Avant d'aller en vacances parlementaires, il n'y avait pas que la seule plénière au cours de laquelle il fallait traiter de la question dans l'Est de la République démocratique du Congo. Encore que nous étions en session extraordinaire qui avait été essentiellement budgétaire aussi. Mais en ce moment-là, les processus étaient en cours. Nous sommes un État dans les concerts des nations. Nous ne pouvions pas nous démettre des principes de gestion des États sur le plan diplomatique, sur le plan politique. Les gouvernements étaient en pourparlers, les gouvernements étaient en train de procéder à différentes enquêtes pour en arriver à cette conclusion-là. Vous avez suivi le ministre Mende, et porte-parole du gouvernement. Il avait dit que le gouvernement était en train de mener des enquêtes. Et au bout de ces enquêtes-là, il a été déterminé que le Rwanda était l'agresseur de la République démocratique du Congo pour une énième fois. Donc le gouvernement a travaillé méthodiquement en tant qu'un gouvernement responsable. Mais les faits précédant les droits, il y a l'opinion qui avait déjà précédé les événements pour dire que nous étions agressés. Le gouvernement n'avait pas rejeté cet aspect des choses. Mais aujourd'hui, nous y sommes.
Merci, honorable Makiashi. Professeur Philemon Mwamba, je rappelle que vous êtes secrétaire académique à la faculté de droit et sciences politiques à l'Université catholique au Congo et chercheur au centre d'études politiques de l'UNIKIN. Quelle appréciation vous faites des matières prévues pour cette session de septembre?
Merci, madame. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais mon problème est que on pose la question de l'Est du Congo aujourd'hui, mais ça fait plus de 10 ans qu'on y est. Et je me demande, pendant ces 10 ans, qu'avons-nous fait pour que nous ne soyons pas la risée du Rwanda. Pour, je m'insurge contre le député José Makila quand il dit qu'il était tenu en homme d'État de garder silence sur les travaux à huis clos. Mais la Constitution lui donne aussi le droit de s'insurger contre un ordre illégal. Donc, il reste, il y a plus de 5 millions de morts. Et on considère qu'on ne peut pas parler à haute voix de ces morts parce que un président, soit-il de l'Assemblée nationale, a décidé que la question soit traitée à huis clos. Aujourd'hui, qu'elle sera traitée à haute voix, en séance publique, je pense que toutes les questions sur la sécurité à l'est du pays, sur la restructuration de notre armée, seront débattues et que des solutions y seront trouvées. Depuis plus de 10 ans aujourd'hui, nous n'avons aucune académie militaire qui fonctionne. Comment forme-t-on nos officiers qui doivent planifier les attaques à l'est du pays? Nous avons un ministre de la Défense. Quel a été son cursus par rapport à l'armée ou par rapport au renseignement militaire ou civil pour qu'il soit en mesure de parler d'égal à égal avec James Kabarebe, le ministre de la Défense rwandaise, qui a dirigé, n'oubliez pas cela, beaucoup de gens l'oublient, qui a dirigé notre armée pendant plus de 2 ans et qui l'a déstructuré aujourd'hui pour qu'on soit un nain devant le Rwanda. Donc, c'est des questions essentielles qu'il faudra traiter. Et comme disait le député du Palou tout à l'heure, c'est les finances qui donnent les moyens à l'armée. J'aimerais qu'au moment où nous serons discutés le budget, que la question de l'armée soit au centre des préoccupations et qu'on ne soit pas ridiculisé comme la dernière interview de James Kabarebe avec Colette Brackman, où elle dit que l'armée congolaise, ses militaires ne sont pas en mesure de tuer même des rats. Mais, madame, est-ce que vous vous imaginez de la teinte psychologique de cette déclaration par rapport à nos hommes de troupes qui sont envoyés à l'Est pour combattre? Et dont il dit que le grand problème est qu'ils ne sont même pas en mesure de leur donner à manger. Mais un type affamé, comment peut-il aller combattre pour la République? Donc il faudra que les députés prennent cette question en charge et nous aident une fois pour toutes à résoudre la question de l'Est. Mais aussi au moment où ils vont débattre du budget. Il y a un problème dans notre pays. Les députés sont là pour parler au nom de la population. Et cette population au Congo, à cause de la faillite de nos entreprises publiques, à cause du mauvais climat des affaires, nous avons très peu d'entreprises capables d'embaucher les Congolais. Mais ceux qui les embauchent les payent en monnaie de singe en disant que le SMIG de votre pays est de 3 dollars. Donc, un travailleur congolais, quand un Libanais, un Pakistanais ou un Indien ou un Chinois lui paye 100 dollars, il dit qu'il fait déjà plus que le SMIG voté par notre Parlement. Est-ce que nos députés ne peuvent pas, dans le cadre de cette session budgétaire, voir la question du SMIG pour les travailleurs congolais? De cette manière, on peut améliorer aussi le quotidien du Congolais, même si on doit faire la guerre. Et puis, je m'insurge contre le fait que la question de la restructuration de la CENI et la mise en place de l'Observatoire pour les droits de l'homme deviennent des priorités. Mais on parle de mettre Ngoï Moulunde dehors depuis longtemps. Le centre Carter, la CENCO ont déclaré que les élections ont été mal organisées. Mais le pouvoir en place, la majorité actuelle, n'en a jamais fait cas. Aujourd'hui, ça devient une priorité parce que la francophonie a exigé la restructuration de la CENI et la mise en place de l'Observatoire pour les droits de l'homme. Mais j'aimerais aussi que les députés inscrivent comme priorité la mise en place de la Cour constitutionnelle, la Cour pour les droits économiques et sociaux et les autres cours qui ont été prévus par la Constitution.
Merci.
Dont on ne fait pas cas aujourd'hui.
Merci, professeur. Je vous arrête à ce niveau. Le temps pour moi de redonner la parole à l'honorable José Makila qui va réagir à votre analyse, à vos propos. Honorable José Makila,
Oui, madame, le professeur a tout à fait raison de dire que j'ai parlé de secret d'État. C'est vrai, nous députés, nous sommes tenus à notre règlement intérieur. Et le règlement intérieur ne nous autorise pas de sortir de tout ce qui a été dit à huis clos. Nous sommes des hommes d'État. Il est vrai que dans les débats où nous amenons en dehors des hémicycles, nous pouvons dire tout ce que nous pensons. Mais comme députés, nous sommes tenus à notre règlement intérieur. Je reviens sur ce que le collègue avait dit tout à l'heure, en parlant de l'article 126. Il a tout à fait raison. Mais est-ce que Joseph Kabila a respecté l'article 126? Il est en train de faire la guerre. L'article 214 dit quoi, madame? Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux. Tous ces traités-là, du moment où tous ces traités doivent affecter les finances publiques, ils doivent impérativement avoir une loi. Madame, c'est là où nous nous insurgeons pour dire que M. Kabila a violé la Constitution. C'est bien bon de dire que oui, il faut respecter l'article 126, ok. Mais l'article 214, Madame Ebisikwabo, la ministre des Affaires étrangères rwandaise, l'a si bien dit. Ça fait plus de 2 ans que les militaires rwandais sont chez nous. Ils ne sont pas sortis la nuit, ils sont sortis le jour. Avec quoi on payait tous ces militaires rwandais? Qui était au courant? Qui a ratifié ce traité? Qui a voté une loi? C'est pourquoi nous disons qu'il y a angoisse sur roche. Il est vrai que le professeur parle de chômage et consorts. Madame, laissez-moi terminer. Le professeur a tout à fait raison. Vous savez, nous avons 96% de taux de chômage dans notre pays. Et que fait le gouvernement actuel? Le premier ministre, qui fut le ministre des Finances, ne veut même pas payer la dette intérieure. Et nous le savons tous, que les PME ne survivent que grâce aux dettes intérieures. Et quand il ne veut pas payer, c'est qu'il est en train de fabriquer des chômeurs dans ce pays. Vous savez, non, je vais terminer.
Vous avez lancé, c'est bien, mais vous faites quoi?
Non, mais nous avions dit ça. À l'investiture du gouvernement avec son programme, nous avions dit, monsieur le Premier ministre, payez les dettes intérieures pour que les PME puissent fonctionner, pour éliminer ne serait-ce qu'un peu de nombre de chômage. Il ne le fait pas. C'est un gouvernement qui est venu pour tuer le peuple congolais.
Vous croisez les bras lorsque le gouvernement ne le fait pas?
Nous ne croisons pas les bras parce que nous n'avons pas la majorité et nous le dénonçons. Et vous savez que chez nous, nous avons cette phrase fétiche qui dit « qui sont pour, qui sont contre ». Et nous savons que les gens sont téléguidés à partir de la chambre basse. Et ce n'est pas normal. Quand le professeur parle de la francophonie, mais il a tout à fait raison. Quels sont les objectifs de l'OIF? C'est la promotion de la démocratie et l'état des droits. Mais est-ce qu'il y en a ici, le procès de Tchébéa, qu'ils ont promis qu'ils allaient trancher? Ils ont renvoyé ça au calendrier grec. Vous comprenez? Ils savent pertinemment, le pouvoir sait pertinemment qu'il est là par la force des choses. C'est un pouvoir qui est arrivé là par les armes et ne peut attendre que le langage des armes.
Alors, il y a une motion de défiance contre le ministre de la Défense. Qu'est-ce que vous lui reprochez?
Mais le ministre de la Défense n'est que... Vous savez, si on veut faire sauter les fusibles, le vrai problème ici au Congo, à l'est du Congo... s'appellent Kagame et Kabila. Ce sont les deux qui constituent un problème pour l'Est du Congo.
Merci.
Il ne faut pas faire sauter les fusibles.
Merci José Makila, honorable maître Willy Makiachi. Parmi les sujets à traiter, il y a aussi la restructuration de la CENI. Et qu'est-ce que vous entendez par restructurer la CENI? Est-ce que c'est le cadre juridique qui doit changer ou ce sont les personnes qu'on doit remplacer?
Merci madame, la question est à toute son importance, mais une toute petite mise au point par rapport à ce que l'honorable Makila a dit. Il avait dit précédemment qu'il y avait un cas de haute trahison de la part du président de la République qu'il fallait mettre en accusation. Il vient d'y ajouter que les traités et tout, et le président Kabila ne l'a pas fait, comment il fait la guerre, et sans argent, il n'a pas... fait signer ça comme il fallait. Et il dit, il y a anguille sous roche. Il termine en disant que le pouvoir en place y est arrivé par la voie des armes. Mais voilà, mais l'honorable est un élu. Le président de la République, les pouvoirs en place, comme il dit, parlons, quand il parle des pouvoirs, parlons des institutions et de ses animateurs. Il est un des animateurs du pouvoir en place, en tant qu'élu du peuple. Est-il arrivé là par la voie des armes? Et pourtant, il est issu des élections organisées en novembre 2011, et qui étaient couplées, dont en amont, c'était les, il y avait, disons, couplé élection présidentielle, élection législative nationale. Le président Kabila représenta une des institutions, la première, donc le président de la République, a été élu à l'occasion de l'élection de l'honorable Makila et de nous tous. Comment aujourd'hui l'honorable peut torpiller de lui-même la démocratie, la normalité, pour revenir en arrière en disant que le pouvoir en place y est arrivé par la voie des armes et ne peut entendre que, et ne peut entendre que les armes? Non. Là, il est en train de scier lui-même l'arbre sur lequel il est assis, et il est en train de se contredire lui-même parce qu'il n'est pas le fruit des armes, lui, dans cette législature, dans ce parlement. Il est le fruit de la démocratie. Et voilà comment il est libre, il s'exprime très librement. Déjà, les droits humains auxquels nous allons arriver, nous sommes en train, en fait, on n'est pas très loin, mais déjà, on est en plein. Mais là, j'ai dit que l'honorable n'a pas raison, et que le président de la République, il dit simplement qu'il sera mis en accusation, mais il ne dit pas quels sont les griefs. Donc, j'ai l'impression que les voleurs crient aux voleurs. Donc, c'est les députés de l'opposition. Alors que vous avez parlé de l'honorable et Roger Lumbala, dans vos prémices, là, vous avez dit l'honorable Lumbala, et il sera sollicité la levée de son immunité. Et pour cause de haute trahison. Et c'est dans les rangs de l'honorable Makila qu'on trouve la haute trahison. Et quels sont les griefs qui frappent le président de la République pour qu'il soit mis en accusation pour haute trahison? Il n'a pas relevé ces griefs-là. Alors, maintenant, je reviens.
Je vais vous donner la parole, honorable Makila, rapidement sur la restructuration de la CENI.
Lorsque l'Assemblée nationale a examiné les rapports sur l'évaluation à mi-parcours du processus électoral, il s'est dégagé clairement dans les débats la nécessité d'assouplir le système d'organisation des élections. En même temps que les soucis partagés d'élargir la structure organique actuelle, notamment à la société civile.
Là, vous donnez raison au Sénat qui avait demandé cela depuis longtemps, que la société civile puisse faire partie du bureau de la CENI.
C'est une analyse que je suis en train de faire. Mais si le Sénat aura raison in fine, mais c'est aussi son rôle. C'est pas pour rien qu'il existe des chambres. Mais j'ai dit ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu évaluation. Donc j'ai le devoir de moralité et d'honnêteté intellectuelle pour reprendre les discussions et les résolutions qui s'en étaient suivies. Alors, et si dans les prochains échanges, le Parlement en venait à se pencher sur un tel élargissement, ce sera parce que le Congo profond peut se réjouir de ce que son Parlement veille sur la bonne gouvernance de l'appareil électoral, et pas parce qu'il faut plaire à tel ou tel autre. Donc, mais cela peut se faire, mais nous allons voir dans les échanges qu'il va y avoir.
Oui, mais brièvement, quand on parle des restructurations, c'est quoi que les députés veulent changer, les hommes ou juste le texte, les lois, les cadres juridiques de la CENI?
Oui, vous avez raison. Il faut partir pour tout changer. Il faut commencer par changer l'instrument qui autorise la mise en place des structures. C'est d'abord la loi. Il faut partir d'abord de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante.
Merci.
Et c'est en modifiant cette loi-là qu'on tiendra compte de tous les autres aspects sur les plans des structures.
Merci, honorable Willy Bak. Je vais vous donner la parole, honorable Makila. Le temps pour moi de redonner la parole au professeur Mwamba. Professeur, sur la restructuration de la CENI, est-ce que le fait de changer les hommes ou le texte, la loi, pourrait améliorer les choses pour les prochaines élections, les prochaines élections locales?
Merci, madame, pour la question. Les structures sont aussi importantes que les animateurs. Mais dans notre pays, nous avons une maladie contagieuse pour les deux. Les structures, parfois, sont mises en place dans la précipitation, sans tenir compte des critiques des uns et des autres. Et les hommes, souvent, sont choisis par intérêt personnel et non pour la communauté. Je rigole quand on parle de l'élargissement du bureau de la CENI à la société civile. Ngoyi Mulunden n'est-il pas l'émanation de la société civile? L'abbé Malumalu qui a été décrié pour la CEI n'était-il pas l'émanation de la société civile? Mais c'est quoi cette société civile dans notre pays? Le ministre Bahati, pendant plus de 20 ans, s'est autoproclamé président de la société civile. Mais aujourd'hui, il vient de créer un parti politique. C'est quoi cette société civile dans notre pays? Pourquoi on ne peut pas faire un sondage national pour demander de choisir un candidat cette semaine? On va toujours passer dans les conciambules politiques et où nous savons qu'il y a déjà une majorité et qu'il y a déjà un candidat pour remplacer Ngoyi Mulunda. Mais pourquoi on nous pose, nous, peuple, on ne nous pose pas la question? Restructurer, c'est bien. Changer les hommes, c'est bien, mais pour quelle finalité? Quel est l'organe ou la structure qui sera chargée d'auditer, de contrôler le travail qui sera fait?
Professeur, on a un problème avec votre ligne, elle se détériore. Essayez de bouger un peu pour essayer de l'améliorer.
Oui, le grand problème dans notre pays, c'est la question de la sanction, qu'elle soit positive ou négative. C'est parce que certaines personnes, certains animateurs de certaines institutions se considèrent comme protégés et que rien ne peut arriver avant que celui qui l'a placé là-bas ne décide qu'ils peuvent tous partager des sommes à la CENI. Si dirige les pays ne veulent pas laisser la démocratie s'exprimer, on aura toujours les résultats qui seront décriés, mais on vous dira que la tricherie est minime, elle ne peut pas influer sur les résultats finaux. Mais un voleur peut donner une leçon de morale, même si la tricherie est moindre. Voilà tout mon problème par rapport à cette question de la restructuration de la CENI.
Alors, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubero Honor, qui vous professeur.
Chico Siviri, j'appelle à partir de Lubero en province du Nord Kivu. À mon avis, les matières prévues sont bonnes pourvu qu'elles mettent au centre de la préoccupation le peuple congolais. Mais c'est inévitablement la façon dont nos politiciens vont les aborder qui va poser des problèmes. Car l'éternel combat majorité-opposition persiste toujours et ne nous a rien servi. Que les uns et les autres se débattent cette fois-ci pour la cause nationale.
Réaction, professeur Mwamba.
Non, je crois que l'auditeur que l'on vient d'écouter donne la quintessence même de l'action publique pour des populations civilisées. Quand il y a une question primordiale nationale, on n'a pas besoin de voir la majorité, l'opposition s'affronter. On a besoin d'avoir des décisions qui doivent nous conduire vers la paix, vers le développement. Aujourd'hui, la question de l'Est, ce n'est pas une question de l'opposition et de la majorité au pouvoir. C'est une question nationale. Vous avez suivi l'auditeur qui a parlé à partir de l'Équateur. Mais qui peut s'imaginer que cet homme peut parler comme il a parlé parce qu'il est très loin de Goma, il est très loin de Rutshuru, il est très loin de Nembo où se passent des atrocités qu'on ne peut pas qualifier. Quand certaines organisations disent que les victimes des deux guerres mondiales pour la Grande-Bretagne ne sont même pas à comparer avec les morts à l'est du pays. Est-ce que on peut faire de cette question-là une question de l'opposition et une question du pouvoir? Non, c'est une question nationale.
Merci.
J'ai parlé tout à l'heure de la question du SMIC.
Brièvement, c'est professeur.
Pardon, madame?
Brièvement, on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, je demande que nos députés, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, mettent au centre de leur débat, de leur activité politique, la situation de notre pays. Résolvons cette question à l'Est. Mais on
Merci.
Ne peut pas résoudre cette question à l'Est quand nous voyons certains comportements.
Merci, professeur. Je veux vous redonner la parole. Le temps pour moi de donner la parole à José Makila. Une minute, je prends juste de réaction des auditeurs. Auguste Mwango de Kalimio Maniema, ce sont les autres points qui intéressent davantage le peuple congolais et non le budget, car l'expérience montre que bien que voter le budget est non seulement en grande partie alloué aux institutions nationales, mais aussi il n'a jamais été appliqué à 60% que les députés en général, et ceux de la majorité en particulier, mais disent à combien de pourcents, quand et comment a été exécuté les budgets 2012 avant de voter celui de 2013, pour que je croie en leur volonté de matérialiser la révolution de la modernité, la sécurisation de l'Est et l'amélioration du social. Premier honorable José Makila, réaction par rapport à l'analyse de Maître Willy Makiachi, vous vous contredisez.
Non, mais en tout cas, je veux dire à mon estimé collègue ceci. Il ne va pas discuter avec moi, mais il doit discuter avec la Constitution, surtout qu'il est juriste. Qu'il prenne l'article 85 de la Constitution. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres conformément à l'article 144 et 145 de la Constitution. Ce n'est pas moi. Et il en informe par message à la nation. Ce n'est pas moi qui le dis. Allons même plus loin, madame, s'il vous plaît. C'est important pour que les auditeurs de l'OCAPI puissent suivre. L'article 86. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la Défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Le président de la République a autorisé la guerre à l'Est sans pour autant se conformer à ces articles. Ça, c'est un. Des deux, si je dis ce pouvoir est issu de la guerre. Mais c'est l'AFDL qui ignore que Joseph Kabila est là par la volonté de l'AFDL. Joseph Kabila est là par la volonté de l'AFDL. La rébellion que nous vivons aujourd'hui, qui ignore que c'est la suite de l'AFDL. C'est d'abord l'AFDL. Ne me coupez pas, madame, s'il vous plaît. C'est d'abord l'AFDL, c'est le RCD Goma, c'est le CNDP, aujourd'hui c'est le M23.
Le MLC aussi.
Non, le MLC n'est pas là. Là, c'est le... C'est le RCD, c'est le RCD. Mais... Je suis le député de l'ATD, madame.
Vous êtes venu du RCD quand même.
Auditeurs. La guerre que nous vivons aujourd'hui à l'Est, c'est l'AFDL, c'est le RCD Goma, c'est le CNDP, et aujourd'hui c'est le M23. Et tous de la majorité, au jour où je vous parle. Donc, le président de la République a violé intentionnellement la Constitution.
Alors, il nous reste deux minutes pour mettre fin à l'émission.
Juste de la CENI.
De la CENI, brièvement.
De la CENI, le professeur a tout à fait raison. Le problème au Congo, c'est que nous faisons une loi, nous confectionnons sur mesure. Le jour où nous allons faire une loi qui ne dépend pas de la tête des individus, c'est ce jour-là que le Congo sortira de ses misères. Je peux vous dire que nous sommes en face d'une majorité qui piétine sur la loi, une majorité prédatrice qui n'est pas là pour les Congolais, mais qui est là pour leur propre volonté et qui est là sous le yung des Rwandais.
Merci,
nous sommes dirigés par des Rwandais.
Merci,
et nous
assistons contre José tout Makila. Merci, honorable José.
Et vous soyez de l'opposition comme de la
honorable, s'il vous plaît. Merci, honorable José Makila. Ouais. Maître Willy Makiachi, en conclusion, il reste une minute pour mettre fin à l'émission.
Merci beaucoup. L'émission était dit le dialogue entre Congolais. Mais moi, j'ai dit le dialogue entre les Congolais est possible s'il signifie la confiance aux gouvernants, aux institutions. Ce dialogue sera possible s'il signifie la réponse de ces mêmes gouvernants aux problèmes cruciaux qui préoccupent les Congolais au quotidien. Mais pour que les gouvernants...
Est-ce que c'est ce qu'on observe?
Mais justement, ce n'est pas toujours ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'il y a un problème entre la tête des institutions et le reste. Le président de la République prend à bras le corps, à tout moment, les problèmes cruciaux de la République. Mais les 15 personnes qu'il avait toujours cherchées, les a-t-il trouvés cette fois-ci? J'ai l'impression qu'il s'y pose encore problème, donc notamment au sein de l'exécutif.
Merci. Professeur Philemon Mwamba, un mot en guise de conclusion.
Je pense que le mot, je le prendrai de notre député du Palou, qui vient de dire que est-ce que le président de la République a trouvé les 15 personnes dont il avait besoin pour bien mener le bateau qui s'appelle la République démocratique du Congo. ne choisissons pas les animateurs des institutions ou ceux qui doivent nous diriger selon les processus de clientélisme politique ou de l'ethnicité.
Merci,
mais
professeur.
Choisissons les meilleurs d'entre nous pour diriger
merci,
la République.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à Guy Mathien, Alain Roux, sous la supervision de Pelletti Pelamondo, qui nous ont aidés à préparer et réaliser cette émission. Sylvain Matoun était à la technique au micro, Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet, www.radioocapi.net. Bonne soirée chez vous et bonne suite du programme sur la fréquence de la paix.